Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui, jusqu'à 12h30, vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Et j'ai la grande joie de retrouver la journaliste gastronomique Catherine Roig pour la cerise sur le gâteau d'aujourd'hui. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline.
Ça sera à 12h25 et sur quel sujet aujourd'hui ?
Pâtisserie, la revanche des femmes.
Oula, vous me faites peur. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité aujourd'hui à 12h15.
La madeleine de la chanteuse Camille.
Ah, nous donnez envie. Et c'est la dernière de la saison avant l'été, mais nous vous retrouverons sur la grille estivale de France Culture, je vous en parlerai à la fin. Et donc, pour cette dernière avant les vacances, nous avons eu envie d'une émission en forme de clin d'œil à nos petits camarades de la presse écrite qui bouclent leur numéro sur le marronnier de l'été. Le sexe, car l'alimentation n'y échappe pas, figurez-vous. Et les plaisirs de la chair sont aussi ceux de la chair, évidemment. Ça se comprend mieux à l'écrit qu'à l'oral. Quoi de plus érotique qu'un potager ? Comment expliquer ce lien si profond entre sexe et nourriture ? Quand manger rime avec sexualité, c'est le sujet du plat du jour ce midi. Et pour ouvrir cette émission, quoi de mieux qu'une chanson légèrement grivoise de 1963, Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu.
Bonjour Xavier Mathias.
Bonjour.
Vous êtes formateur en maraîchage et en jardinage bio, auteur de nombreux ouvrages, mais on va citer le dernier, celui qui va nous intéresser dans cette émission ce midi, La vie érotique de mon potager aux éditions Terre Vivante, un livre préfacé par Anna Gavalda. Avec vous se trouve ce matin, ce midi même, Nathalie Elal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste gastronomique en charge de la rubrique Histoire et Gastronomie à Histoire Magazine. Vous avez reçu en 2016 le prix Amuna Tegui-Kurnonski de la meilleure journaliste gastronomique. Et vous êtes l'autrice d'un livre qui s'intitule donc « Même les légumes ont un sexe » aux éditions Solar et qui est une sorte d'histoire des relations entre sexe et nourriture. Là, je vais commencer par vous, Nathalie Elal. Est-ce que c'est un vrai sujet, ce sujet des relations entre sexe et nourriture, ou c'est vraiment juste un marronnier pour rigoler ?
C'est absolument un vrai sujet et c'est tellement un vrai sujet que moi, je suis partie d'un constat en regardant tout simplement les réseaux sociaux, puisqu'étant journaliste culinaire gastronomique, j'ai beaucoup observé un hashtag qui m'intriguait fort et qui était le hashtag foodporn. Et je me suis demandé comment on pouvait associer sexe et nourriture sur un simple hashtag et surtout pourquoi porn ? Pourquoi pas Eros Food, par exemple, ça aurait été un peu plus soft, un peu plus joli.
Le hashtag foodporn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un hashtag dans lequel on peut trouver tout un tas de photographies culinaires, de vidéos. Et donc, on peut l'entendre, photographie culinaire, dans différents sens, en fait.
Absolument. Et donc, sur ces photos et vidéos qui montraient la nourriture d'une manière assez particulière, je dois dire, puisque la nourriture était photographiée avec des gros plans un peu... presque indécent, en fait, parce que dans tous ces food porn, enfin, en tout cas, à l'origine du hashtag food porn, eh bien, on trouve des photos ou des vidéos où on a l'impression, quand on est spectateur, qu'on va rentrer dans l'assiette parce que ça dégouline et c'est un appel à la jouissance. Et comme j'aime également beaucoup l'histoire, j'ai voulu creuser, remonter le fil rouge de l'histoire entre sexe et nourriture. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que mon livre est sous-titré Petites histoires entremêlées du sexe et de la nourriture.
Oui, parce que vous en êtes arrivé à dire que c'est une histoire longue avec deux obsessions, deux passions qui sont
deux pulsions
françaises.
Deux pulsions vitales. Se nourrir, se reproduire. Alors se reproduire, plus ou moins, ça c'est plus le sens chrétien, hein, se reproduire, c'est judéo-chrétien. Mais sinon, évidemment, manger, faire l'amour, c'est deux obsessions vitales de notre vie.
Cela dit, Xavier Mathias, c'est bien pour cela que vous vous parlez d'une ambiance torride au potager, puisque les plantes ont besoin de se reproduire, donc c'est aussi la reproduction qui domine.
Oui, au potager, on fait que ça, en fait, encourager ou réfréner la reproduction. Donc il y a ce côté magnifique, en fait, de tous ces insectes qui bruissent, etc., de ces tomates qu'on veut manger, on peut se régaler des tomates. Les tomates, c'est des fruits, ça contient des graines, c'est donc issu de la fécondation d'une fleur. Il faut que nos fleurs soient fécondées. Par contre, à l'inverse, quand on fait des laitues, ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'elles montent, qu'elles partent à graines, qu'elles se reproduisent. Nous, on veut des belles laitues choufflues, paumées, etc. Et si elles font leur ampe florale, si elles se reproduisent suite à un stress, et ben voilà, la laitue est perdue. Donc c'est bromure pour les laitues et Viagra pour les tomates.
Et vous dites même que les plantes ont inventé la sexualité et qu'elles ne l'ont pas oubliée.
Ben ouais, en fait, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que c'est le végétal qui invente la reproduction sexuée. Avant, c'était la mitose, c'est-à-dire que c'était pas très rock'n'roll quand même. On se coupe en deux et on se reproduit, quoi. Alors que la méiose, c'est-à-dire l'échange de gamètes, la sexualité, c'est les plantes qui nous l'apportent. Et nous, les animaux, on hérite de cet héritage, pardonnez la répétition, mais cet héritage formidable quand même, qui est cette invention. Et tout découle de ça, en fait. Donc quand on regarde nos plantes, effectivement, on peut faire de l'anthropomorphisme quand même assez facilement.
Et on le fait aussi avec le vocabulaire, Nathalie Elal, de toute façon.
Oui, il y a plein de... Effectivement, la chanson de Colette Renard est un hommage à ce vocabulaire, à ces passerelles entre la nourriture et le sexe, parce qu'elle parle de l'abricot, elle parle de la cerise, il y a l'asperge, enfin, il y a plein de, effectivement, de végétaux qui sont une invite à l'amour, qui sont considérés aussi comme des aphrodisiaques au cours de l'histoire et qui, forcément, ont toujours un double sens qui fait beaucoup rire au premier degré, ou au second, ou même au troisième.
Les vertus aphrodisiaques, on n'a qu'à en dire un mot tout de suite. Il y a plein d'exemples dans votre livre, Nathalie Elal, comme dans celui de Xavier Mathias. Vous prenez un exemple, vous prenez la verveine, herbe de Vénus au temps de la mythologie. En quoi est-elle aphrodisiaque? On pensait au gingembre, maintenant vous donnez la verveine. Vous donnez aussi le gingembre, cela dit.
Oui, je parle un peu du gingembre, mais c'est vrai que la verveine, c'est beaucoup plus inattendu, parce que quand on pense verveine, on pense tout de suite à la tisane de nos grands-mères, qui est franchement pas sexy. Et pourtant, au Moyen-Âge, la verveine était considérée réellement comme un aphrodisiaque. Alors évidemment, à l'époque, pas en sachet, pas en tisane de cette manière-là, mais plutôt en collier de fleurs de verveine que les femmes se mettaient autour du cou pour attirer leurs amants et, paraît-il, décupler leur vigueur. Et puis surtout parce qu'en cassant une tige de verveine fraîche, il y a une sorte de liquide blanchâtre qui en sort et qui, toujours selon la théorie des signatures chères au Moyen-Âge, imitait le sperme. Donc les hommes s'enduisaient le sexe de cette sève de plante pour, là encore, avoir l'impression de décupler leur vigueur.
Xavier Mathias.
Moi, j'aime bien aussi le céleri, par exemple. Et il y a un dicton qui dit « Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome. » Et alors, c'est encore plus drôle, c'est quand la science contemporaine le confirme. Le céleri contient de la pygénine qui favorise la spermatogénèse, etc. Donc, c'est ça qui est assez drôle, c'est quand ça se vérifie, je trouve, en fait.
Nathalie,
alors, je pense que nos ancêtres le savaient, effectivement, parce que Madame de Pompadour, qui était réputée froide comme une macreuse étant un canard des marais, autant dire qu'elle était surnommée mais la frigide, poliment. Madame de Pompadour donc voulait absolument garder son amant Louis XV. Donc elle buvait à longueur de journée du chocolat chaud, parce que je rappelle qu'à l'époque le chocolat chaud était une boisson pas du tout pour les enfants, mais une boisson plutôt considérée comme aphrodisiaque. Et dans son chocolat chaud infusait généralement du céleri et de la truffe. Je vous laisse imaginer le mélange improbable, mais c'était là encore pour essayer de ne plus être frigide.
Xavier Mathias, au-delà de la légèreté, de l'humour, dans votre petit précis de sexualité végétale, j'ai un peu envie de vous demander pourquoi c'est important d'avoir toutes ces informations que vous nous donnez sur les légumes, sur les fruits. Est-ce que c'est juste par hédonisme, parce que d'ailleurs le surnom d'Épicure, c'était le philosophe au jardin, pour aider les cultivateurs, les producteurs, les maraîchers? Est-ce que c'est un guide, comme l'écrit d'ailleurs Anna Gavalda, un guide pratique pour aider à mieux vivre sa sexualité grâce à celle des plantes? À quoi ça sert tout ça?
À s'émerveiller. Tout simplement, c'est-à-dire que pour moi, c'est étrange, je sais, mais pour moi, le potager, ça a toujours été un lieu d'émerveillement. Il y a une fleur que j'adore, c'est la bourrache, par exemple. Et quand on regarde un plant de bourrache, il y a des fleurs bleues et il y a des fleurs roses dessus en même temps, ce qui paraît très curieux. Et en fait, ça s'explique par la sexualité. C'est-à-dire que le bleu est très bien vu par les insectes pollinisateurs, ce qui fait qu'une fleur qui n'est pas fécondée est bleue. Quand elle est fécondée, elle fait moins d'efforts. et elle prend cette couleur vieux rose que les insectes ne voient plus, en fait. Donc c'est ça l'explication. Pourquoi sur nos plantes bourraches, on a des fleurs de couleurs différentes?
C'est ben, d'aller voilà. Y être en branche.
Voilà, et on peut se dire, alors on peut avoir une vision un petit peu difficile comme la mienne, un petit peu dure pour vous mesdames, c'est de se dire, bah voilà, c'est la chanson d'Aznavour, quoi. Tu te laisses aller. C'est-à-dire, une fois que t'es fécondé, hop, on fait plus d'efforts. Et en réalité, non, c'est tout le contraire. En réalité, c'est très bienveillant de la part des fleurs fécondées de changer de couleur pour que ce soit les fleurs non fécondées qui profitent de la visite d'un insecte.
Nathalie, là, ça, vous ne le saviez pas, manifestement. Vous en avez pris des choses, hein. Ouais. Parce qu'il y a ce qu'on mange et qui évoque la sexualité. Et puis, il y a la vie sexuelle des fruits
très
et des légumes.
Très scientifique, hein. Une approche scientifique.
Ah, mais c'est scientifique. C'est mais est-ce qu'il y a
d'ailleurs.
Des fruits et des légumes féminins et des fruits et des légumes masculins? Hormis d'ailleurs le genre, une carotte, un avis, et hormis
non,
la forme,
je ne crois pas
peine que je fasse un dessin.
C'est la symbolique, c'est la symbolique qu'on veut bien leur donner. Je pense par exemple à l'asperge, forcément, puisque sa forme est très phallique.
Ne dites pas tout ce qu'on dira tout à l'heure, après la Madeleine, s'il vous plaît.
Je vais griller le teasing. Non. Non, pour moi, il y a un genre, effectivement, dans la langue française. Puis après, il y a la symbolique et puis des anecdotes qui sont là pour renforcer la symbolique. Mais pour moi, c'est pas vraiment sexué. C'est la forme, c'est la texture, c'est les analogies, c'est la théorie des signatures, encore une fois. C'est pas autre chose.
Alors, vous, le spécialiste, Xavier Mathias.
Alors, le légume, en soi, non, il a pas vraiment de sexe. C'est les fleurs qu'il porte. Par contre, peuvent être unisexuées, bisexuées, etc. Sur un plant de courge ou de courgette, par exemple, elles sont monoïques. C'est-à-dire qu'on a des fleurs à la fois mâle, complètement mâle, et des fleurs complètement femelles. Un pommier, c'est des fleurs bisexuées, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu en amont qu'il faut situer la sexualité au moment de la floraison. Mais il y a une sexualité véritable sur les fleurs. D'ailleurs, je rappelle à ce sujet-là, quand même, parce que vous allez voir que vous verrez plus jamais un bouquet de fleurs de la même manière. Mais offrir un bouquet de fleurs, c'est quand même offrir un ensemble d'attributs sexuels, hein, quand même. Donc quand on parle du langage des fleurs, ça me fait un peu marrer, parce que outre la symbolique, parlons de ce que c'est véritablement. Une fleur, c'est un organe sexuel. Voilà, donc imaginons ça transposé au règne animal, si c'est exactement comme offrir une paire de testicules. Voilà, c'est la même chose.
Nathalie, là, on devrait presque faire des émojis du coup en forme de fleurs plutôt qu'en forme de légumes. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut que ce soit suggestif, et c'est d'ailleurs ce que dit aussi Anna Gavalda, Xavier Mathias dans la préface de votre livre, on fait des légumes ou des fruits.
Parce que c'est vrai, ce que vous dites est très intéressant, parce que en effet, on a beaucoup oublié ce langage symbolique des fleurs qui était très très connu avant. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point offrir par exemple un bouquet d'hortensia qui signifie caprice, en langage des fleurs, le caprice, hein, le caprice, le libertinage, caprice aussi. C'est connoté, mais on ne le sait plus.
Et la nature, elle est pas sexuée, dites-vous, à part les fleurs, manifestement, Xavier Mathias. Mais est-ce qu'elle est sexiste? Parce que vous parlez à un moment du maïs et vous dites que le maïs est macho.
Ouais, mais ça me fait marrer.
C'est plein d'humour, ces livres, bien sûr. Mais pourquoi dites-vous ça?
Le maïs, il est monoïque avec des fleurs monosexuées. C'est-à-dire qu'il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. C'est d'ailleurs très joli, hein, quand on y pense. La fleur mâle, c'est la fleur qui est au-dessus. Alors, il y a un côté dominant, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on peut trouver ça un petit peu macho. Et en dessous, vous avez la fleur femelle. Et à quoi l'on l'identifie? Elle a des jolies soies, en fait. Un peu comme de la lingerie fine. Pour attraper le pollen qui vient du dessus, quoi. Et c'est vraiment super joli quand on le voit comme ça. Un peu macho, parce que c'est les hommes au-dessus, les femmes en dessous.
En ce moment, vous dégustez.
Vous avez l'air soucieuse.
Je songeais à ce que vous venez de dire.
Le sexe?
Oui. Je n'avais pas imaginé comment ça peut se passer.
La voix de l'actrice Edith Scob, dont on a appris la disparition cette semaine, pour passer donc à la Madeleine Natacha Trio. Qui donc avez-vous rencontré aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va écouter Camille, hein, qui est chanteuse, autrice, compositrice. Et dans ses 5 albums, elle garde toujours un pied dans l'enfance. Hein, donc ça tombe bien, on reste dans le verger potager. C'est aussi une chanteuse qui dit dans ses interviews, chanter, c'est comme l'enfant intérieur qui s'exprime. Sur scène, pendant ses concerts, on la voit jouer pieds nus. Et elle affirme ses convictions écologiques, toujours avec candeur. Pour sa Madeleine, Camille nous raconte son péché mignon.
Je pense à la framboise. Alors, chez ma grand-tante, quand j'étais jeune ado, on mangeait je me souviens de ça, on mangeait des framboises avec du lait de ces vaches, la crème. Oh, la crème hyper épaisse jaune. C'était en Angleterre. Et avant, je me souviens d'avoir mangé des framboises à la crème aussi, avec ma maman, qui me disait toujours que la framboise allait avec la crème fraîche. Donc je vois cette crème fraîche blanche, bon, plus industrielle que celle de ma grand-tante, qui était jaune et qui venait de, enfin, qui était, c'était du lait cru en fait, c'était le lait de la ferme, de sa ferme. Mais j'ai pas de souvenir précis, mais je me souviens de ce, comme cette tradition, de ce dicton de ma mère, quoi. Les framboises, ça va avec, ah oui, avec la crème blanche et le sucre roux. Donc c'est une alchimie, voilà, entre la crème, c'est un peu acidulé comme la framboise, mais ça, c'est doux, et le sucre, ça craque, donc ça contraste avec la framboise qui fond. Donc j'ai souvenir de consistance, mais j'ai dû en manger tellement de fois que j'ai pas un souvenir précis, en fait. Et puis d'avoir eu ce plaisir de cueillir des framboises. On n'était pas à la campagne, mais c'est quelque chose de facile. Souvent, les framboisiers, ça pousse comme des ronces. Et puis, c'est facile à cueillir, les framboises. Et c'est très, très bon. Enfin, c'est très gratifiant, en fait, de ramasser des framboises. Tu les mets tout de suite dans la bouche, ça fond. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne mange plus la crème. Mais j'en ai quand même un bon souvenir, hein, de cette belle crème jaune. Et je continue à manger les framboises. Et je dirais que c'est ça, ma Madeleine de Proust. Enfin, mes goûts ont changé depuis mon enfance, quand même. Il y a beaucoup de choses que je mange plus, que je mangeais petite. Mais ça, voilà, j'ai gardé le goût des framboises et de cueillir des framboises. Et c'est comme une peau. Il y a la douceur de la peau, un velours. Mais une peau, très vite, à vif, parce qu'on sent le sang sous la peau, très vite, dans la framboise, il y a le jus. Donc c'est une peau, c'est presque sous la peau, c'est très particulier, c'est un peu acidulé. Puis cette couleur qui fait partie du goût, puis les petits poils, ce petit duvet, c'est tendre, ça rappelle le duvet des enfants sur leur tête, des nouveau-nés, je sais pas, j'aime bien ce petit duvet de la framboise. Et je trouve que c'est un fruit, il a un caractère érotique aussi, hein. Quand on grandit, on se dit quand même la framboise a quelque chose d'érotique et d'enfantin aussi quand même, enfin voilà.
La Madeleine de Camille. Alors Nathalie, la framboise est-elle érotique?
Oui, mais surtout quand j'entends Camille parler avec autant d'emphase et de la framboise et de la crème, je pense tout de suite à la reine du crime, Agatha Christie, qui avait ceci en commun avec Camille, qu'elle adorait la crème du Devon, parce qu'elle parle de la crème qu'elle trouvait chez sa tante en Angleterre, Camille. C'est la crème du Devon, en effet, qui est très épaisse, qui est vraiment très très compacte, mais sensuelle, infiniment sensuelle, et surtout avec effectivement ces framboises du jardin, parce que là, elle parle des framboises du jardin, c'est pas la Driscoll qu'on trouve en barquette à bas prix. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que Agatha Christie se mangeait à elle toute seule des grands pots, des grandes jattes de crème fraîche du Devon avec des framboises.
Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est à quel point ce thème, hein, c'est que ces nourritures a inspiré les écrivains. Vous citez Agatha Christie, un journaliste, Jean-Luc Hennig, en a même fait un dictionnaire, le dictionnaire littéraire et érotique des fruits et légumes. Ouais. Il cite dans ce dictionnaire le livre de Jean-Baptiste de la Quintinie, dont vous parlez aussi Xavier Mathias, sur l'asperge, vous le faites. Mais donc, la Quintinie était le jardinier de Louis XIV et il avait écrit Instructions pour le jardin du roi, où il écrit que la pêche ne se mange qu'avec le couteau et que lorsque la lame pénètre dans le fruit, il faut voir le petit ruisseau couler sur la peau. Et puis vous donnez aussi, Nathalie Hella, cet extrait de l'éducation sentimentale de Flaubert. Flaubert réunit dans le cabinet particulier, écrivez-vous, d'un restaurant à la mode son héros, Frédéric et Rosanette, une courtisane capricieuse. Et voilà ce qu'écrit Flaubert. Elle mordait dans une grenade, le coude posé sur la table, les bougies du candélabre devant elle tremblaient au vent. Cette lumière blanche pénétrait sa peau de ton nacré, mettait du rose à ses paupières, faisait briller les globes de ses yeux. La rougeur du fruit se confondait avec la pourpre de ses lèvres. Ses narines minces battaient et toute sa personne avait quelque chose d'insolent, d'ivre et de noyé qui exaspérait Frédéric et pourtant lui jetait au cœur des désirs fous. Xavier Mathias, alors si on faisait une petite promenade dans le jardin sur la symbolique érotique des fruits, on commencerait par quoi ?
Il y a vraiment la pomme, oui. Alors on va en parler parce qu'elle est inévitable, la pomme d'amour, donc qu'est la tomate tout simplement. Voilà, là c'est la saison qui commence et effectivement là dans la symbolique du fruit juteux, sucré qui dégouline, agréable, etc. Cette pomme d'amour qui était bon, qui a été mal perçue en France au début, mais tout de suite les Italiens l'ont adoptée avec beaucoup de gentillesse. Eux, ils lui prêtaient même des vertus aphrodisiaque, alors que nous, on s'en méfiait énormément. Comme quoi, c'est le regard qu'on porte aussi beaucoup.
Et vous dites aussi, d'ailleurs, de la tomate, qu'elle met en place tout un tas de stratégies pour être fécondée et déplacée.
Alors, oui, en fait, on peut voir, j'aime beaucoup Francis Allais, et Francis Allais nous rappelle que, en fait...
Il est un botaniste.
Oui, voilà, ouais, l'animal est la plus noble conquête du végétal. J'adore cette idée-là. Les végétaux n'ont pas de jambes pour se déplacer, alors ils séduisent les animaux. Et les animaux les mangent, les becquent, etc., et puis les déplacent, tout simplement. Et quand vous offrez une plante, en fait, vous êtes entré dans son jeu. Vous l'avez déplacée, elle vous a séduit, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on offre des fleurs. Les fleurs, elles sentent bon et elles sont belles. Pourquoi ? Mais c'est pas pour nous, hein, l'origine. C'est pour les insectes. Après, les fleurs qui sont relativement invisibles, vous voyez, si je vous demandais de me décrire une fleur de chêne ou une fleur de vigne, vous auriez du mal. Normal, elles sont invisibles, c'est le vent qui les féconde. C'est ce qu'on appelle une fécondation anémophile. Donc, la fécondation de la fleur se fait par le vent. Dès qu'une fleur est belle, dès qu'elle sent bon, vous pouvez être sûr que c'est une fécondation entomophile. Faites par les insectes. C'est quand même drôlement mignon, tous ces efforts de séduction qui sont mis en place.
Nathalie Elal, vous prendriez quoi, vous ?
Franchement, peut-être la fraise, parce que je trouve que c'est vraiment... Alors pour moi, c'est le plus peut-être que la framboise, c'est pour moi encore le fruit le plus érotique.
Et que la grenade ?
La grenade, c'est une symbolique qui nous vient du Moyen-Orient. Hein. C'est venu de là-bas. C'est vrai que là-bas, c'est tout un symbolique de fécondité plus que de sexualité, je dirais. Mais pour moi, ce serait vraiment la fraise parce que il y a un côté très coquin autour de la fraise. Il y a aussi ce côté juteux, ce gros fruit charnu, enfin plus ou moins gros, évidemment, tout dépend de la variété. Mais pour moi, c'est définitivement associé à une vraie sensualité, cette fraise.
Vous dites, vous, Xavier Mathias, que la menthe est une coureuse.
En fait, oui, la menthe, qui en a planté dans son jardin, s'en est bien aperçu. Hein. La menthe, elle reste pas en place. Hein. En fait, elle gagne partout, les plates-bandes, etc. La menthe, ça, c'est rigolo, parce que c'était utilisé comme contraceptif pour les hommes. On était vraiment favorisés, nous, les hommes, quand même pas mal.
C'est avéré scientifiquement, il y a quelque chose
Non, pas du tout,
c'était une légende urbaine.
Voilà, c'est-à-dire... Mais oui, mais qui nous arrange bien, puisque on frottait le sexe masculin avec de la menthe, pour avoir des vertus qui permettent d'éviter la fécondation d'une femme. À l'inverse, pour une femme, c'était quand même vachement moins drôle. Pour vérifier qu'elle soit enceinte ou pas, on mettait une gousse d'ail dans le vagin.
Ouais.
Et si elle avait une haleine chargée en ail, c'est qu'elle n'était pas enceinte. Si l'haleine n'était pas chargée en ail, c'est bien qu'elle était enceinte.
Le prédicteur. Oreilles sensibles s'abstenir. Déjà, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, on n'aura pas le temps de le faire, mais vous le faites longuement, Nathalie Elal, dans votre livre, c'est les relations entre sexe, nourriture et religion. On va pas remonter à la pomme d'Adam et Ève ou au jardin d'Éden, le premier primeur d'entre tous, mais peut-être terminer par une anecdote que vous racontez dans votre ouvrage sur comment sont nés les fameux pastéis de nata au Portugal, ces petits flans aux œufs délicieux.
Oui, alors ça se passe au XVIe et XVIIe siècle où les jeunes femmes de l'aristocratie qu'on n'arrive pas à marier, eh bien on va les mettre dans des couvents et donc ce sont des jeunes femmes frivoles, elles adorent se parer, faire la fête, évidemment recevoir, si c'est possible, leurs amants. Et donc, comme elles sont trop délicates pour avoir des bestiaux, elles vont élever des poules. Et les poules donnent beaucoup d'œufs. Qu'est-ce qu'elles vont faire des œufs pour les recycler ? Alors, le blanc sert à amidonner les cornettes et le jaune à faire des pâtisseries. Donc, elles vont s'amuser à créer des tas de pâtisseries. Et c'est comme ça qu'est née la pâtisserie portugaise. Elle est vraiment née dans les couvents et les pastéis de nata en sont un très bon exemple.
Et vous nous permettez une excellente transition vers la cerise sur le gâteau de cette émission, Nathalie Elal, puisqu'on reste dans le dessert et la pâtisserie avec Catherine Roig. Chère Catherine Roig, vous nous parlez donc pâtisserie, la revanche des femmes. Qu'est-ce
oui, absolument. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Caroline, mais ma première chronique dans cette émission était un plaidoyer pour promouvoir la place des femmes dans la gastronomie.
Oh oui, je m'en souviens très bien.
Car si elles sont nombreuses et remarquables dans ce secteur, pour se faire connaître et être médiatisées, ce n'est toujours pas de la tarte. Enfin, les choses commencent à bouger tout doucement. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, une jeune femme a été nommée meilleure chef pâtissier du monde. Il s'agit de Jessica Prealpato, 32 ans, du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Et oui, Caroline, vous m'avez bien entendu, je n'ai pas dit meilleure femme chef du monde.
Ni pâtissière.
Mais, non, mais meilleure chef tout court. C'est comme si les Incenses et 50 Best avaient entendu les chefs et les journalistes gastronomiques qui se battent depuis des lustres pour la suppression des sous-catégories sexistes. De là à dire que la pâtisserie serait un domaine d'extension de la lutte féministo-culinaire, il n'y a qu'un pas que je franchis prudemment.
Mais comment ça s'explique tout ça ?
Ben peut-être parce qu'on vit actuellement une sorte d'âge d'or de la pâtisserie avec une offre toujours plus débordante, un emballement médiatique sans précédent pour les gâteaux en librairie, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Rien que sur Instagram, les hashtags gâteau et cake rassemblent plus de 86 millions de publications. Mais à l'intérieur de ce phénomène, j'insiste, il y a tout simplement le talent et la créativité exceptionnelle de ces pâtissières. Revenons à Jessica Prealpato, par exemple. Si elle a le triomphe modeste, c'est le moins qu'on puisse dire, elle a pourtant inventé un style de dessert bien à elle. Adieu mousse, crème, beurre, sucres ajoutés. Jessica préfère créer, inventer des mariages de saveurs, bousculer le client, agacer le palais avec de l'amertume, de l'acidité, des textures inédites. Pour cela, elle utilise le vinaigre, le miel, les algues, comme dans son dessert au citron et à l'estragon, ou le houblon pour une assiette d'orge maltée et de bière givrée. Bref, c'est plein d'aspérités, d'aucuns disent même que ses assiettes sont moches, mais elle s'en fout, et elle a bien raison, car c'est divinement étonnant. Ses consoeurs ne sont pas moins douées, chacune dans leur genre. Je vous conseille les desserts sans gluten, sans lactose et sans sucre de Nadia Samut à l'auberge de la Fenière dans le Luberon. Atteinte de la maladie cœliaque, la chef crée des douceurs bluffantes comme le Paris Lourmarin à base de farine de courge et de jus d'amande ou le cigare au chocolat sucré à l'ail noir. Essayez aussi les incroyables cookies de Moko Hirayama chez Moko Nuts à base de miso et d'olives séchées par exemple. Testez sans faute les délicates créations de Myriam Sabet à la maison Aleph où cette jeune femme d'origine syrienne sublime la pâtisserie orientale. Ses nids de kadaïf à la rose ou ses mille et une feuilles à la pistache d'Iran et à la fleur d'oranger sont à tomber. Évidemment, vous goûterez aussi au délicat Madame Rêve de Claire Damon, de la pâtisserie des gâteaux et du pain, à la fraise des bois et au jasmin. Dans la série, je pourrais aussi citer Florence Lesage, chef pâtissière du West End Paris Vendôme, Lucille Darrozet, chef pâtissière de l'Oiseau des Ducs à Dijon, ou encore les pâtissières instagrammeuses suivies par des millions de followers comme les Allemandes de Food Stories ou la Suédoise Linda Lomelino. Mais je préfère conclure sur la grande Christelle Brua. Récompensée à de multiples reprises, cette créatrice hors pair quitte le restaurant du Pré-Catelan où elle a officié 16 ans auprès de Frédéric Anton.
Et où va-t-elle, Christelle Brua ?
Je vous le donne en mille. Après un chef, trois macarons, elle a choisi Macron puisqu'elle rejoint les cuisines du palais présidentiel. Alors une chef pâtissière à l'Élysée pouvait choisir meilleure cerise sur le gâteau pour terminer la saison.
En effet, et d'ailleurs on peut réécouter les bonnes choses avec Christelle Brua puisqu'elle était venue nous accorder un entretien pour un portrait et c'était fin décembre. Bien sûr, tout cela est à réécouter sur notre site internet franceculture.fr ainsi que votre chronique. Et puis d'ailleurs, on peut aussi retrouver vos propres recettes de dessert, ma chère Catherine, dans votre dernier livre, SOS Recettes.
Oui, merci.
Merci à vous. Et n'oublions pas que le meilleur restaurant du monde est le restaurant français de Menton, le Mirazur de Mauro Colagreco. On l'a appris cette semaine. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Elal et Xavier Mathias,
merci
d'être venus ce midi pour la dernière de la saison, donc, de ces bonnes choses. Même les légumes ont un sexe, petites histoires entremêlées de la nourriture et du sexe. Nathalie Elal, c'est chez Solar. La vie érotique de mon potager, Xavier Mathias, avec une préface d'Anna Gavalda, c'est aux éditions Terre Vivante. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Sophie-Catherine Gallet, Natacha Trioux, Jean-Christophe Francis, Vivien Demeyer et notre technicien du jour Clément Daté vous souhaitent non seulement un excellent dimanche à l'écoute de France Culture, mais aussi un excellent été. Et je suis très heureuse de vous annoncer que les bonnes choses vous accompagneront cet été tous les jours de midi à midi 30 du 15 juillet au 23 août. Voilà, c'est dit. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signe des temps par Marc Weisman.